VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcy, les Nathalie Barge, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du jeudi 24 novembre 2016. Au sommaire ce soir.
Nouvelle tentative de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Au moins une kamikaze a été tuée.
Le Rwanda réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide de 1994.
Après des attaques ayant fait des dizaines de morts dans l'Est congolais, un gouverneur de la région lance un appel au calme.
Relance de l'enquête sur la mort du journaliste Guy-André Kieffer en Côte d'Ivoire il y a 12 ans.
Et aux États-Unis, Donald Trump annonce d'autres choix pour son futur cabinet.
Bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Une femme kamikaze s'est fait exploser ce matin dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où des djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde kamikaze, selon des sources militaires, a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge. Les précisions avec John Linden.
Autour des 6h30 GMT, deux jeunes kamikazes se sont introduites dans la ville de Mora, dans le but de se faire exploser, mais elles ont été repérées, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable militaire. Une des kamikazes s'est faite exploser, blessant la seconde qui finalement a été abattue par des militaires du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise en première ligne dans la lutte contre les djihadistes nigérians. Le jeudi est traditionnellement jour de marché à Mora, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. Elle abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, composée d'une demi-douzaine de pays engagés dans la lutte contre Boko Haram.
Au Rwanda, le gouvernement réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide de 1994. Kigali a jugé profondément inadéquates les excuses présentées dimanche par l'Église catholique rwandaise. Eric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que Kigali a clarifié sa position. Le gouvernement rwandais estime que le Vatican lui-même devrait demander pardon pour le rôle de certains de ses membres lors du génocide rwandais de 1994. Par conséquent, le pays des mille et une collines rejette les excuses présentées dimanche par l'Église catholique locale dans une lettre lue aux fidèles dans les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Les évêques des 9 diocèses du Rwanda demandent pardon pour des individus et non pour l'Église en tant qu'institution. Le président de la commission épiscopale rwandaise, Mgr Philippe Rukamba, a précisé le lendemain que l'Église n'a pas participé au génocide, une réaction qui a choqué Kigali, qui la juge profondément inadéquate. Selon le gouvernement, les excuses des 9 évêques rwandais mettent uniquement en lumière la distance qui sépare l'Église catholique d'une reconnaissance complète et honnête de ses responsabilités morales et légales, et de souhaiter des excuses du Vatican qui seraient amplement justifiées.
Dans l'est de la RDC, le gouverneur du Tanganyika a appelé au calme après de nouveaux affrontements interethniques meurtriers. Richard Ngoyi Kitamala a reconnu les affrontements sporadiques entre pygmées et bantous dans la région, mais a qualifié de rumeur les informations sur une tuerie à Mouswaki. Hier, le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, avait dit avoir reçu des informations non confirmées sur une attaque de pygmées qui aurait fait 30 morts dans cette localité. L'hôpital de Kalemi, capitale de la province, a indiqué à l'AFP avoir admis 17 blessés par flèche, dont un est décédé ce matin.
L'Union syndicale sud-africaine COSATU a apporté son soutien au vice-président Cyril Ramaphosa pour remplacer le président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain, le parti au pouvoir. Le futur chef du parti, qui doit être choisi fin 2017, succéderait à M. Zuma au poste de chef de l'État en cas de victoire de l'ANC aux élections générales de 2019. M. Ramaphosa avait échoué en 1999 dans la course à la présidence de l'ANC. D'autres noms circulent, dont Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de l'Union africaine, et le trésorier de l'ANC, Zweli Mkhize.
Relance de l'enquête sur la mort du journaliste Guy-André Kieffer, disparu en 2004 à Abidjan. Un témoin affirme savoir où se trouverait le corps du journaliste. Le point avec Dilidico.
Ce jeudi, l'avocat de la famille Kiefer a affirmé qu'un témoin entendu en mai par le juge d'instruction français en charge de l'affaire a dit savoir où se trouverait le corps du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, disparu en 2004 à Abidjan. Ce témoignage relance l'enquête sur la disparition du journaliste entouré de mystères. Suite à ce nouvel élément, l'avocat demande à la Côte d'Ivoire de coopérer. Maître Alexis Gublin a déclaré à l'AFP que le témoin, un Français installé en Côte d'Ivoire, a affirmé que le corps du journaliste pourrait avoir été enterré dans les sous-sols d'une maison au sud d'Abidjan. Ce témoignage est considéré comme sérieux et solide. L'avocat souligne que cette fois-ci, les affirmations concordent avec d'autres éléments du dossier. Le journaliste avait disparu en avril 2004 alors qu'il avait rendez-vous avec Michel Legré, beau-frère de Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire.
Un Chinois a été interpellé à l'aéroport de Johannesburg en possession de 43 kilos de cornes de rhinocéros d'une valeur de 466 000 dollars, selon la police. L'homme de 28 ans était en transit entre la Namibie et Hong Kong. Il comparaîtra demain à Kempton Park. En 2015, 1342 rhinocéros ont été tués en Afrique.
300 étudiants manifestant à Khartoum contre l'augmentation des prix de l'essence et des médicaments ont été dispersés par la police anti-émeute. 26 personnes, dont 12 femmes, ont été arrêtées ces derniers jours lors de manifestations du même ordre. Le Soudan a augmenté le prix de l'essence et du diesel de 30% en raison d'une pénurie de carburant causée par un manque de devises étrangères.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONG française Femmes Solidaires et le Comité des femmes djiboutiennes contre le viol et l'impunité ont réclamé l'ouverture d'une enquête de l'ONU après des accusations de viol commis par l'armée. 246 cas de viol par des militaires ont été recensés depuis 1993. Selon les deux associations, ces femmes de l'ethnie Afar accusent les soldats djiboutiens combattant les rebelles du Froud de se venger sur les civils. Le gouvernement affirme que les plaignantes sont manipulées à des fins politiques.
Et sur la scène internationale, l'étau se resserre à Mossoul sur le groupe État islamique, quasiment encerclé par les forces irakiennes qui doivent encore remporter une bataille urbaine âpre contre les djihadistes. Bagassi Koura, c'est une bataille en présence de centaines de milliers de civils pris au piège.
En première ligne, les unités du contre-terrorisme irakien continuaient de progresser rue après rue dans l'est de Mossoul, malgré la résistance féroce de l'ennemi 5 semaines après le début de l'offensive pour la reconquête de cette métropole du nord du pays. Après avoir repris le quartier d'Aden, les troupes d'élite se battent désormais dans la zone voisine d'Al-Qadra, a confié un combattant à l'AFP. Mercredi, les forces irakiennes sont parvenues à couper la voie d'approvisionnement du groupe extrémiste sunnite entre Mossoul et Raqqa. Raqqa, son fief en Syrie, à quelques 400 km à l'ouest et où une coalition arabo-kurde cherche parallèlement à chasser les djihadistes.
70 personnes, en majorité des pèlerins iraniens, de retour de la ville sainte chiite de Karbala en Irak, ont été tués ce jeudi par un attentat au camion piégé au sud-est de Bagdad. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Falah Al-Radi, chef de la sécurité du conseil provincial de Babylone, après l'attentat qui s'est produit dans le village de Chomali, à 120 km de la capitale irakienne. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique, qui avance un bilan plus lourd cependant de 200 morts et blessés.
La Turquie a pour la première fois mis en cause le régime du président Bachar al-Assad après la mort de 3 soldats participant à l'opération menée par l'armée turque dans le nord de la Syrie. L'armée n'a pas précisé dans quel secteur cette attaque a eu lieu, mais les médias turcs ont affirmé qu'elle s'était produite dans la région de la ville d'Al-Bab, contrôlée par le groupe État islamique. Le premier ministre turc Binali Yildirim a menacé Damas de représailles sans fournir de précision.
Le Parlement européen a demandé le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en raison de la répression disproportionnée en cours depuis le coup d'État avorté de juillet. La résolution adoptée ce jeudi à Strasbourg n'est pas contraignante, mais son passage à une très large majorité représente une grande victoire, selon les eurodéputés conservateurs. Tout en reconnaissant qu'Ankara est un partenaire important de l'UE, le texte affirme que la Turquie n'affiche plus la volonté politique de coopérer. Les actions de son gouvernement la détournent encore plus de sa voix européenne.
Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC devaient signer aujourd'hui l'accord conclu le 12 novembre après 6 semaines de renégociations, mais rejeté par les électeurs lors d'un référendum. L'accord devait être signé par le président Juan Manuel Santos et le chef des FARC, Rodrigo Londono, plus connu sous son nom de guerre Timochenko. Le chef de l'État a choisi cette fois de solliciter l'approbation du Congrès colombien où son parti est majoritaire, une démarche critiquée par l'opposition.
Après Nikki Haley à l'ONU, Donald Trump a nommé la deuxième femme de son équipe gouvernementale. La femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, a été choisie pour être ministre de l'Éducation. Quant à la nomination de Ben Carson au logement, elle devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir 3 postes clés, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense et le secrétaire au Trésor. Une ancienne candidate indépendante à la Maison-Blanche, l'écologiste Jill Stein, a levé les 1 100 000 dollars nécessaires pour demander un nouveau décompte des voix de l'élection présidentielle dans le Wisconsin, a annoncé son équipe de campagne. La candidate du Parti des Verts évoque aussi des anomalies justifiant, selon elle, un nouveau décompte dans 2 autres États clés, la Pennsylvanie et le Michigan, remportés de justesse par Donald Trump. Il faut enquêter sur les résultats inattendus de ce vote avant que l'élection 2016 ne soit validée, a fait valoir Jill Stein. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Anastasie Tudiech.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, serait-il l'homme de la croissance mondiale relancée ? Pour la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, la promesse de campagne du magnat de l'immobilier est positive. Monsieur Trump veut mener à bien un grand plan d'investissement aux États-Unis d'environ 550 milliards de dollars pour rénover les infrastructures. Le PDG de Kenya Airways, Mbuvi Ngudze, démissionnera début 2007, comme le réclamait le syndicat des pilotes de la société. Fin juillet, Kenya Airways a publié une perte nette de 26,22 milliards de shillings, soit 230 millions d'euros, sur un exercice annuel achevé le 31 mars 2016, la pire perte nette d'une entreprise dans l'histoire du pays. Quelque 300 étudiants et lycéens ont protesté aujourd'hui à Khartoum, au Soudan, contre les 30% de hausse du prix du carburant. En cause, une pénurie causée par un manque de devises étrangères, entraînant une hausse des prix des produits. Au Nigeria, après quelques semaines de relative accalmie, les attaques menées depuis le début de l'année contre des pipelines dans le sud du pays n'ont pas cessé, menaçant de faire chuter à nouveau la production pétrolière. Le gouvernement se veut toutefois optimiste, assurant que la production était presque revenue à son niveau normal, soit 2,1 millions de barils par jour.
Et pour l'actualité sportive, en studio, Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o épinglé par la justice espagnole pour fraude fiscale.
Oui, le parquet espagnol a requis des peines représentant au total 10 ans de prison et le paiement de 18 millions d'euros d'amende à l'encontre du footballeur Samuel Eto'o poursuivi pour fraude fiscale. Dans des réquisitions datées du 10 novembre, le parquet assure que l'ancien attaquant camerounais du FC Barcelone qui a quitté le club en 2009 a mis en place un montage de société pour éviter de déclarer une partie des revenus tirés de ses droits à l'image. À partir de 2006, une fraude représentant un manque à gagner de quelque 3,9 millions d'euros pour le fisc espagnol.
Préparation de la CAN 2017, match amical entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'Ouganda.
Oui, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, devrait affronter l'Ouganda en match amical pour préparer la CAN 2017 au Gabon. La rencontre est prévue le 11 janvier. Janvier prochain à Abu Dhabi, soit 3 jours avant le coup d'envoi de la compétition.
Steven Gerrard laisse la MLS et maintenant annonce sa retraite.
Oui, l'ancien capitaine de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre qui évoluait dernièrement avec Los Angeles Galaxy dans le championnat nord-américain, ce qu'on appelle MLS, a annoncé donc aujourd'hui qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 36 ans. Steven Gerrard restera toujours, pour toujours, le capitaine légendaire de Liverpool, au dévouement exceptionnel sur le terrain et à son club, avec un point d'orgue, la renversante finale de la Ligue des Champions 2005, remportée chez Roubaix au tir au but après avoir remonté un écart de 3 buts face au Milan AC, si vous avez encore la mémoire, chez Roubaix.
Pas encore, plutôt. on a plus la mémoire. Bagassikoura, merci.
Voilà, merci bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Nathalie Barge et Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, c'est au Mali.
Oui, le Mali pour parler des élections communales du 20 novembre dernier. Les partis ADEMA, l'Alliance JAMA, l'URD, FAR et PARENA contestent les résultats de la commune 2 qui donne l'Alliance RPM-CODEM vainqueur avec 19 conseillers. Le point avec Kassim Traoré.
Après la proclamation des résultats de la communale du 20 novembre dernier, les partis politiques qui ont perdu en commune 2 ne sont pas d'accord. Cheikh Mamoutou Tcham, représentant du parti ADEMA.
Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau 2, 4, 5, 6 et 7, là où le RPM CODEM a 22, ils ont ajouté 2 pour amener à 222. Dans le bureau 3 où ils ont 31, ils ont ajouté 1 euro pour amener à 310. Donc de sorte que à l'hippodrome, ils ont eu un faux chiffre de 1333 électeurs. Et ce qui a faussé toutes les données après les décomptes. Or, nous, les fiches authentiques qu'on a ici, ces copies qu'on a pour certifier et nous battre pour ce que nous voulons obtenir.
Et pourtant, certains Bamakois se réjouissent de la défaite des ténors du pouvoir dans leur localité. Ousmane Balo, journaliste.
On a vu un parti au pouvoir qui a perdu dans sa commune. On a vu des anciens ministres qui ont perdu dans leur commune. Tout cela montre que vraiment donc, les gens sont déterminés à choisir les personnes qu'il faut pour le développement de la commune. Moi, mes attentes ne peuvent qu'être qu'en droit donc ceux de toute la commune et qu'ils fassent en sorte que donc, ces promesses soient des promesses vraiment tenues.
Les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur les nouvelles équipes qui seront installées dans les différentes mairies. Djamoussa Kone, habitant de Banankabougou.
Nous les demandons quand ils seront élus. En tant que maire, qui essaye de travailler un peu sa commune, c'est-à-dire sa circonscription. Je vais parler notamment de son quartier, sur le plan développement, sur le plan d'assainissement et sur le plan aussi embellir le quartier.
La journée électorale du dimanche dernier a été émaillée de plusieurs fraudes, mais ceci n'entame en rien la sincérité du scrutin. C'est ce que pense Bissirou Koulibaly, président de l'Association malienne pour le redressement du taux de participation.
Là où nous avons supervisé, les rapports qui prouvent qu'il y avait des petits problèmes organisationnels dans beaucoup de localités. Dans certaines localités, les matériaux électoraux vraiment n'étaient pas du tout au complet. Surtout la loi électorale n'y était pas, le guide de l'agent électoral n'y était pas. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas vraiment entamper la régularité et la sincérité vraiment du vote.
Parlant de taux de participation, il y a une nette amélioration. Bissirou Koulibaly.
Bamako a enregistré 23,90% en 2009 et aujourd'hui Bamako est à 22,02%. Sigasso avait enregistré 22% en 2009, mais aujourd'hui Sigasso est à plus de 52%. Sigou aussi avait enregistré en 2009 30,89%. Aujourd'hui, les informations que nous détenons, Sigou est à 41% aujourd'hui. Moti aussi avait enregistré 34% en 2009, aujourd'hui Moti est à 32%. Gao avait enregistré 46,35% en 2009, aujourd'hui Gao est à 54%.
Pour le moment, les jeux d'alliance vont bon train dans les états-majors des partis politiques qui ont eu des conseillers dans les différentes mairies. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après 2 semaines de discussions. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Les Centrafricains se préparent à commémorer le 1er décembre la proclamation de la République. Depuis 3 ans, le traditionnel défilé n'a pas eu lieu en raison de la crise que traverse le pays. Cette année, les préparatifs vont bon train et la fête s'annonce radieuse, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les exercices de défilé sont à leur dernière semaine sur l'avenue des Martyrs. Ici, la mobilisation très importante ressemble au jour même de la célébration. Fonctionnaires, hommes, femmes, membres des associations, élèves et personnels d'entreprises privées défilent avec les pancartes de leurs institutions. Depuis 2013, les Centrafricains n'ont plus célébré le 1er décembre, fête de la proclamation de la République centrafricaine, autrefois appelée Oubangui-Chari.
À lire sur le visage des gens, il y a vraiment un engouement, parce que vous savez que ça fait des années que le défilé du 1er décembre n'a pas eu lieu. Alors tout le monde attendait vraiment cette occasion et je pense que pour cette année, ce serait vraiment exceptionnel.
Oui, ici, vous nous voyez ici sur le terrain pour l'apprentissage, c'est pour dire qu'on est prêt à effectuer ce devoir-là.
Parce que ça a mis du temps. Je suis vraiment très joyeux.
Vous-même, vous avez vu le nombre qui était venu rien que pour l'apprentissage. C'est énorme. C'est pour dire que les Centrafricains ont l'envie de défiler.
Le gouvernement veut une célébration réussie, placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Jean-Christophe Nguiza, ministre secrétaire général du gouvernement, président du comité d'organisation de la fête.
Oui, tout est prêt et c'est ce que nous observons, que de temps en temps maintenant, les gens, pour les séances, les différentes séances d'entraînement, les gens s'améliorent au fur et à mesure. Il y a toujours des petites imperfections que nous sommes en train de chercher à corriger. Et je crois que les gens psychologiquement sont déjà prêts pour le défilé. Mais il y a différentes manifestations, c'est ce qui était toutes ces activités qui sont retenues par le Conseil des ministres seront exécutées. Donc en commençant par le défilé, il y aura des matchs de football, il y aura des activités sportives, une réjouissance populaire, tout ce qu'il faut pour donner la gaieté, la joie et la dimension de cette fête que nous attendons tous.
Les préparatifs de cette 58e célébration ne se limitent pas qu'aux exercices de défilé. Sur instruction des autorités, des bâtiments font peau neuve dans la capitale. Certaines rues sont nettoyées et embellies. Chaque institution se prépare à sa manière. Serge travaille au ministère de l'Environnement.
Nous, on a tout acheté pour notre département. On a tout acheté. On attend que la fête soit vraiment une fête qui peut nous unir pour qu'on puisse défiler pour notre pays.
Le 1er décembre ne se prépare pas qu'à Bangui. Plusieurs villes de l'intérieur du pays entendent aussi emboîter le pas à la capitale. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les Américains célèbrent aujourd'hui Thanksgiving, jour d'action de grâce, un jour férié et chômé, l'occasion de se retrouver en famille et entre amis pour partager la dinde traditionnelle. Voici un reportage d'Arzuma Compaoré.
Plus qu'une fête nationale, le jour de l'action de grâce, plus communément connu sous le nom de Thanksgiving, est un jour très spécial pour les Américains. À cette occasion, en groupe ou en famille, on se rassemble pour partager un repas de gratitude. Françoise Ntolo, originaire du Cameroun, fait partie des volontaires de cette année au repas offert par le Safeway Feast of Sharing.
Pour moi, Thanksgiving, c'est un peu comme les Américains. C'est une occasion pour moi de dire merci Seigneur, merci, remercier Dieu pour tout ce que j'ai dans la vie. Et en tant qu'Africaine, c'est aussi une opportunité pour moi de dire merci pour ma famille, merci pour tout le monde. Ma famille au Cameroun ne connaissent pas Thanksgiving, mais je les appelle quand même. Certains Camerounais, quand je vais, ils font du poisson braisé, ils font la Thanksgiving à l'africaine. Je sais pas, il y a eu certains immigrants qui sont venus aux États-Unis. C'est eux qui ont apporté la fête et en tant qu'immigrante, moi aussi, je célèbre.
Une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et une tarte à la citrouille, ce sont là les éléments de base d'un repas de Thanksgiving. Un tel repas coûterait à peu près entre 50 et 60 dollars. Et quand on est toute une famille, cela peut vite devenir coûteux. Pour ne laisser personne en marge, beaucoup d'organisations caritatives offrent un plat chaud à tous ceux qui se présentent. Pour l'armée de volontaires, chaque plat servi est un rappel qu'ils font la différence dans la vie d'une personne.
Docteur Hélène Collen, psychologue dans la ville de Washington, D.C.
Beaucoup d'Américains se portent volontaires pendant Thanksgiving. Il y a des gens qui vont donner un coup de main dans les cuisines ou dans les centres d'accueil des sans-abri. D'autres donnent de la nourriture. C'est surtout prendre le temps de penser aux autres, à des personnes qui sont dans le besoin.
Rappelons que si la Thanksgiving est aujourd'hui un moment de gratitude pour tous, elle rappelle aussi le rôle joué par les Amérindiens lors du tout premier Thanksgiving américain organisé par les premiers pèlerins en remerciement aux Indiens qui leur ont sauvé la vie. Arzuma, Compaoré, VOA, Afrique.
Merci Arzuma Compaoré. Disons aussi que des volontaires et membres de certaines communautés vont accueillir des réfugiés arrivés récemment dans le pays pour un dîner spécial à l'occasion de Thanksgiving. Elisabeth Tcherneff était parmi eux. Son reportage est présenté par Lionel Gaïma.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kidis Tesfaye est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa. Je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner. Seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Tesha Etefera, président et fondateur de l'ONG, Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot était à la mise en onde. À la console, c'était Zouber El Taïb. À la présentation, Nathalie Barge et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos auditeurs et à nos fans sur Facebook. On maintient la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.